Je pleure mes péchés et ceux que j'ai commis et ceux que j'eusse aimé commettre. François Mauriac. Ans d'histoire. Pendant toute sa vie, dans son œuvre et dans ses engagements politiques, François Mauriac a toujours fait le contraire de ce qu'on attendait de lui. Je rigole, mon cher Mauriac, quand on fait de vous un écrivain du catholicisme, lui disait un jour Roger Martin Dugard. Il n'y a pas une œuvre d'incrédule ou d'athée où le péché soit plus exalté. Ce sont des livres à damner des saints. Comment en effet ce pur produit de la bourgeoisie bordelaise, ce catholique pratiquant, qui vivait dans la hantise du péché, ce que j'ai commis et ce que j'eusse aimé commettre, disait-il, comment ce fils, père et mari modèle a-t-il pu écrire le Nœud de Vipère, Génitrix ou Thérèse d'Esquerou, dans lesquels il faisait le portrait d'une famille haineuse, d'une mère aussi castratrice qu'était la sienne, ou d'une femme qui avait tenté d'empoisonner son mari? Comment cet homme de droite, prix Nobel, académicien et chroniqueur au Figaro, a-t-il pu être aussi un des premiers à dénoncer le colonialisme et la torture en Algérie? Jusqu'à sa mort en tout cas, Mauriac aura déconcerté ses lecteurs. France Inter, Yves Mourouzi, le 1er septembre 1970.
3h20, la nuit dernière. Au terme d'une longue agonie, François Mauriac s'éteignait dans son domicile parisien. Académicien depuis 1933, prix Nobel en 1952, de toutes parts les témoignages affluent rue Théophile Gautier, chez celui qui fut l'écrivain qui bat actuellement encore à l'étranger le record des traductions, qui fut un homme public, un militant politique et un chrétien affirmé, François Mauriac était sans nul doute le plus illustre de nos écrivains.
Le plus illustre de nos écrivains, disait Yves Mourouzi en 1970, mais aussi un des moins connus, jusqu'au livre que mon invité d'aujourd'hui vient de lui consacrer chez Fayard. Jean-Luc Barré, bonjour.
Bonjour.
Alors depuis sa parution il y a quelques jours, la première partie de votre biographie de François Mauriac a beaucoup fait parler d'elle, car on y découvre un inconnu. On connaissait l'écrivain, l'homme de droite, dont le cœur battait souvent à gauche, mais pas du tout la vie intime de Mauriac, où se trouve, selon vous, est la clé de l'homme et celle de son œuvre, et notamment ses tendances homosexuelles. Est-ce qu'elles avaient autant d'importance que cela?
Écoutez, je crois d'abord que pour comprendre un écrivain, il faut connaître sa sensibilité. Et il pesait sur la vie et aussi sur la perception de l'œuvre de Mauriac, un tabou qui, à mon avis, a fini par brouiller un petit peu l'idée qu'on se faisait de cette œuvre. C'est très frappant ce que vous avez cité de Martin Dugard. Martin Dugard avait compris tout de suite, lui, et beaucoup d'ailleurs d'écrivains qui entouraient Mauriac, à quel point une sorte de malentendu pesait sur l'œuvre d'un romancier catholique, effectivement préoccupé de péché, etc. Alors que c'est une œuvre, et c'est pour cela qu'il est important de connaître Mauriac pour le savoir aujourd'hui, surtout, près de 40 ans après sa mort, à quel point cette œuvre n'est pas engoncée précisément dans la crainte du péché, mais est une œuvre à bien des égards sensuelle, habitée largement aussi par le sentiment de différence qui était le sien profondément et qu'on retrouve chez tous ces personnages. Ces personnages, dont je crois qu'on ne peut les saisir que si on connaît bien, d'une certaine manière, leur créateur.
Oui, d'autant plus qu'il n'en parlait pas de sa vie intime, même dans ce qu'il appelait « mémoires intimes », mais en fait, il avait bien dit qu'il ne parlerait pas de ce qu'il appelait « l'indicible ». C'était l'homosexualité, l'indicible ?
Oui, bien sûr, c'était cela. Mais c'est une manière d'ailleurs très curieuse de ne pas en parler, c'est-à-dire de dire en quelque sorte « il y a un secret, mais je ne vous dirai pas lequel ».
Ouais.
Bon, donc évidemment, à partir de là, tout le monde savait bien que ce secret existait et commençait à comprendre de quoi il s'agissait. C'est une manière d'ailleurs assez habile et de rester dans une sorte d'ambiguïté qui participe aussi de son secret de créateur. Je crois qu'un François Mauriac qui serait passé aux aveux n'aurait sans doute pas écrit l'œuvre qu'il a écrite. Pour autant, c'était pas totalement un secret, franchement. C'était plutôt un secret de Polichinelle.
Oui, un secret de Polichinelle qui remonte quand même, vous le rappelez, à l'enfance. Il est né en 1885 dans la bourgeoisie bordelaise d'un père qu'il n'a jamais connu, qui est mort, je crois, 20 mois à peine après sa naissance, Jean-Luc Barré.
Oui, c'est sans doute l'élément le plus important, qui est le plus marqué d'emblée, c'est-à-dire l'absence de ce père qu'il ne connaît pas et qui ne va cesser d'inventer d'une certaine manière. Il va inventer son père. Son père qu'il essaiera de mieux connaître, il découvrira que ce père est exactement le contraire de sa mère. D'ailleurs, c'est un homme plutôt de gauche, libéral, républicain, agnostique et surtout un écrivain inabouti. ce qui pour lui va être bouleversant dès l'instant qu'il le comprendra. Et il s'identifie à cette image du père, comme d'ailleurs il s'identifiera à la présence très forte de sa mère, à ceci près que ce père incarne pour lui aussi la part d'imaginaire qu'il y a en lui d'emblée.
Dès que la réalité c'est sa mère, alors une mère très pieuse qui le fait vivre dans la hantise du péché, mais qui l'adorait quand même, Jean-Luc Barré.
Oui, d'abord, c'est pas une mère totalement castratrice non plus. C'est une mère qui l'a accompagné, qui adorait François. C'était son fils protégé, son fils préféré. D'abord, c'était le dernier. Mais elle l'a marqué surtout par cette éducation chrétienne au fond, l'essentiel de cette éducation reposait autour de la crainte de la chair. C'était vraiment le péché. Il n'y avait pas d'autre péché plus important que la chair. Et François a été élevé tout de même avec l'idée de la crainte et quasiment la haine de son corps et de la chair, dont à mon avis, il s'est libéré parce que, en partie en tout cas, parce qu'il y a cette autre part chez lui qui est la part du père qui a toujours été une espèce de garde-fou par rapport à ce qu'il avait reçu de sa mère.
En tout cas, une jeunesse qu'il n'a jamais reniée, une famille aussi à laquelle il est resté très attaché tout le temps. On l'écoute en parler à Jean Amrouche en 1952.
J'étais un enfant trop sensible, follement sensible même. Et j'avais pour ma mère un amour immense qui faisait que les moindres séparations tournaient au drame. Dans mon enfance, enfin je veux dire jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 15 ans, je ne me suis pas du tout senti différent de mon milieu familial. Je me suis senti au contraire étroitement uni. En revanche, à partir de 16 ans, j'avais un extraordinaire complexe d'infériorité. Et en même temps, je me sentais en effet différent et obscurément appelé à une autre vie.
Debout, en ces jours de feu et de poussière, en face du sommeil accablé de la terre, assourdi par le cri des cigales sans nom, je cherchais votre cœur comme je cherchais l'ombre.
Juliette Gréco, l'ombre. L'ombre, c'est un poème, en fait, de François Mauriac, Jean-Luc Barré. C'est par la poésie qu'il commence, en fait, dans la littérature, après son arrivée à Paris en 1907.
Oui, les premiers textes publiés, c'est « Les mains jointes », c'est « L'adieu à l'adolescence ». Ce sont des textes qui sont déjà très imprégnés d'une sensibilité, d'abord de la sensibilité mauriacienne, c'est-à-dire cette sensibilité qu'on va retrouver dans ses romans, et qui est faite, les mains jointes sont un livre en grande partie dédié à un cousin de François Mauriac qui s'appelait Raymond Laurence, qui a été l'une des premières passions de sa vie. Et ce jeune cousin est mort à 20 ans. Et on retrouve dans les mains jointes, et encore plus dans l'adieu à l'adolescence, cette part-là de la sensibilité mauriacienne.
Et puis Paris, c'est aussi la découverte d'un très grand nombre, d'un certain nombre d'écrivains ou d'écrivains en herbe, aussi d'amitiés particulières que vous citez précisément. François Le Gris, Proust, Cocteau, Gide, André Lafont. Cocteau, d'ailleurs, auquel Mauriac a écrit un poème qui est resté interdit pendant des années. Vous le publiez dans votre livre et qui est assez révélateur, ce poème à Cocteau de Mauriac. « Votre sourire est mystérieux et cruel, vos doigts laissent aux doigts une odeur d'aromate, je sens que votre bouche a l'odeur du bétel. Vous allez, bel oiseau, sans jamais atterrir, renversant votre cou tiède et doux de colombe et criant aux désirs assaillants, je succombe. Forme suave, grave et fine de l'amour, que de femmes vont appeler dans ce soir lourd les irritants baisers de vos lèvres gercées. »
Oui, c'est le poème. Effectivement, ce poème n'était connu que par les derniers vers, vos lèvres gercées. Et d'ailleurs, tout cela faisait un peu ricaner parce qu'on s'en servait contre François Mauriac, bien souvent. Et j'ai voulu le publier pour montrer d'abord que c'est un très beau poème. C'est un poème sans doute d'amour, en tout cas d'enthousiasme et d'admiration à l'égard de Cocteau, qui fait partie, en effet, quand Mauriac arrive provincial de Bordeaux à Paris, il rencontre très vite Lucien Daudet et surtout Jean Cocteau. C'est-à-dire le Jean Cocteau éblouissant du début de ce siècle, qui est déjà une vedette et qui fascine François Mauriac, qui en même temps l'inquiète, parce que d'une certaine manière, Cocteau comme Gide révèle chez Mauriac sa nature profonde. Mais ce poème prouve à quel point ils ont été en effet très proches à un certain moment.
Mais contrairement à Cocteau, contrairement à Gide, il dissimule, il le fera jusqu'au bout, et même sa famille prolongera son désir de dissimuler cette homosexualité, cette tendance en tout cas homosexuelle qui était la sienne, Jean-Luc Barry.
D'abord parce qu'il est sans doute moins homosexuel que l'étaient Gide et Cocteau. Je veux dire, il y a une part de lui-même qui est homosexuel, mais c'est un être qui est plus dans l'ambivalence que dans une sexualité définie de manière radicale. Et puis, quelque chose d'important qu'il faut bien comprendre, c'est que j'entends souvent dire, au fond, il l'a caché, mais moi, je pense au contraire qu'on lui a imposé de le cacher. Et que son milieu, son éducation, le fait qu'il, bien sûr qu'il soit marié, qu'il ait des enfants qu'il aimait, tout cela lui a imposé une certaine discrétion dont il a souffert. Je ne crois pas que ça soit chez lui de la dissimulation. Je crois au contraire, d'abord parce qu'il ne le dissimulait pas tant que ça, et ensuite parce qu'il se faisait un devoir, pour des raisons aussi chrétiennes, catholiques, de conviction spirituelle, de ne pas céder aussi ouvertement à ces tentations que d'autres, comme Gide, qui, eux, d'emblée, ont vécu en accord avec leurs désirs. C'était encore autre chose.
Même si, d'ailleurs, on peut les lire entre les lignes de pratiquement tous ses livres, ses souffrances, pas seulement cette homosexualité rentrée, mais tout ce qui a pu le troubler dans sa jeunesse, ce sont ses premiers romans après la guerre, Le baiser aux lépreux en 22, Génitrix, où on a vu le portrait de sa mère castratrice. Il s'en est défendu, Le désert de l'amour, et puis alors surtout, en 1927, le plus célèbre de ses romans, Thérèse d'Esquerou, une femme qui avait tenté d'assassiner son mari et dont Mauriac avait dit un jour, comme l'avait d'ailleurs fait Flaubert en parlant de Madame Bovary, Thérèse d'Esquerou, c'est moi.
Maintenant, tout est accompli. Impossible de rien changer au total de mes actes.
Tu tiens à la vie, Thérèse. Depuis ton unique tentative de suicide à Argelouze, l'instinct de la conservation est toujours vivace en toi.
Dans une assez grande mesure, on pourrait dire Thérèse d'Esquerou, c'est moi, mais dans une certaine mesure. C'est moi, si je n'avais pas été un mari heureux, un père de famille heureux, qui tout de même a eu Dieu dans sa vie. Si vous voulez, c'est moi désespéré. Mais je ne suis pas désespéré.
Ce serait donc une tentation de François Mauriac, et une tentation dont François Mauriac se délivrerait dans la fiction.
Oui, je crois que dans une certaine mesure, c'est assez exact. Ou bien, si vous voulez, c'est certains moments de François Mauriac, mais ce n'est pas François Mauriac.
Alors, est-ce que Thérèse d'Esquerou, c'était ou ce n'était pas François Mauriac?
On ne peut pas être plus ambigu que François Mauriac à l'instant. C'est à la fois
et que
moi,
la question d'Abrouge, d'ailleurs, voilà, une tentation.
Ouais. D'où l'importance, quand même, je crois, 40 ans après, d'y voir un peu plus clair. Bon, Thérèse d'Esquerou, on ne peut vraiment le comprendre que si on sait qu'il écrit ce roman à un moment de crise amoureuse, sentimentale profonde, où il est tombé amoureux, il est amoureux d'un jeune homme qui est marié d'ailleurs, et c'est un moment où il rejette, c'est l'histoire, c'est un moment où il écrit d'ailleurs Souffrance du chrétien, où cette crise sentimentale est dévastatrice pour lui, aussi dévastatrice d'ailleurs que le sera pour Thérèse, la révélation au fond du mensonge dans lequel elle vit elle-même, et donc...
Avec un mari qu'elle tente d'assassiner.
Voilà, alors ce qui n'est heureusement pas le cas de François Mauriac, mais je veux dire par là qu'il est à un moment de sa vie où il rejette beaucoup de choses, il est en pleine crise, à commencer d'ailleurs par cette religion qu'on lui a inoculée selon sa formule et qui lui interdit notamment toute relation charnelle, en tout cas du type de celle qu'il voudrait avoir. Et Thérèse d'Esquerou, c'est effectivement vraiment François Mauriac en 1927. C'est un moment de sa vie où il est lui-même en pleine révolte contre son éducation, son milieu, et avec les mêmes tentations d'errance, finalement, qui seront celles de Thérèse.
Plus tard, ce sera Le Nœud de Vipère, aussi un roman très célèbre, qui a reçu un accueil triomphal, d'ailleurs, et dans lequel on a vu la dénonciation, au fond, d'une famille haineuse. C'était la sienne ?
Il a toujours, toute son œuvre, au fond, il a eu son univers romanesque très tôt, il l'a possédé très tôt, c'est évidemment son milieu. Bon, on dit d'ailleurs que le personnage du Nœud de Vipère lui a été inspiré par son beau-père. Il avait, effectivement, il s'est nourri de sa famille, de ce qu'il appelle la substance des autres, de ceux qui l'entouraient, et c'est en grande partie la dénonciation de l'égoïsme du milieu dans lequel il a vécu, ce milieu possédé, hanté absolument par l'argent et le besoin d'avoir de l'argent, de le préserver, ce qu'il appelait l'instinct de conservation.
En tout cas, c'est un succès énorme, après quoi il entre à 48 ans à l'Académie française. Hein. Et c'est l'année où Hitler, d'ailleurs, arrive au pouvoir. Alors, on n'a pas parlé de l'homme engagé. En fait, il ne l'était guère avant les années 30. Il disait d'ailleurs, s'il était engagé, c'était plutôt dans le rang des conservateurs, « Je suis profondément anti-parlementaire ».
Oui, mais
c'est pas un homme de gauche. Hein, c'est attendez, c'est dire plus, à ce moment-là.
C'est plus compliqué. Je crois que l'élément essentiel pour comprendre la conscience politique de Mauriac, c'est de savoir qu'il a été profondément marqué par l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est la révélation adolescent, lui qui a vécu dans un milieu anti-Dreyfusard, sa mère était anti-Dreyfusarde, son oncle Louis, qui était le frère de son père, lui, avait compris très tôt que Dreyfus était innocent. Et quand François aura la révélation du fait qu'on lui a menti, et que surtout il verra que l'Église, à quel point l'Église, cette Église à qui il appartient d'une certaine manière de naissance, s'est fourvoyée dans l'affaire Dreyfus, alors à partir de ce moment-là, il aura le sentiment que le devoir d'un chrétien, et qui plus est d'un écrivain chrétien, c'est de se tenir aux valeurs de justice et de charité, et de ne pas trop se confondre avec des intérêts politiques.
Oui, mais justement, alors, bon, il ne s'intéresse absolument pas, il serait même plutôt hostile à l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, mais en revanche, il a de la sympathie pour ces personnages étonnants, on découvre ça dans votre livre, Jean-Luc Barré, il admirait d'une certaine manière Mussolini, Philippe Henriot, le futur chef de la propagande du régime de Vichy, Léon de Grelle, qui lui se battra sous l'uniforme nazi pendant la guerre, le Belge Léon de Grelle, c'est extraordinaire. Ça quand même.
Oui, enfin, tous ces gens-là, il s'est écarté d'eux assez tôt, je dirais. Il n'est pas allé très loin, mais il a été marqué pour une raison très simple. D'abord, n'oubliez jamais cette dualité, cette ambiguïté permanente chez Mauriac. Il y a un côté, je dirais, homme de gauche, c'est le chrétien. Et puis, il y a la marque, l'empreinte de la mère, qui est effectivement anti-parlementaire comme lui. Il a baigné là-dedans. Son frère Pierre était d'Action française. Et le possédant, lui, naturellement, est de droite, inquiet de ce qu'est la Troisième République, inquiet de voir ce régime se délabrer et fasciné par un homme qui pourrait incarner le pays comme Mussolini incarne l'Italie à ce moment-là, comme Salazar va incarner le Portugal. Et il est en quête de cet homme-là. Et au fond, il attend De Gaulle depuis toujours, si vous voulez. Alors, il ne le trouve pas. Il se trompe. Il y a Philippe Henriot. On ne peut pas dire, évidemment, que ça soit une bonne pioche. Mais il sera en attente de cet homme-là.
Ce n'est pas un homme d'extrême droite encore.
Hein. On verra plus tard. Pas
très
loin.
Il n'est pas de gauche, mais enfin bon.
Pas très loin.
En tout cas, lorsque la guerre d'Espagne se déclenche en 1936, évidemment, dans ces conditions, on peut s'attendre à retrouver Mauriac du côté de Franco, jusqu'à ce que ce catholique fervent apprenne que les premiers massacres de l'armée de Franco sont commis par des soldats qui portaient sur leur uniforme le Sacré-Cœur de Jésus.
Après l'assassinat du leader monarchiste Calvo Sotelo, les hommes du soulèvement national vont essayer le 18 juillet 1936 de s'emparer du pouvoir. Le général Franco, leur chef, s'est installé à Séville. La guerre civile est commencée, opposant bras tendus et poings levés.
Espagne ! Arriva Espagne ! Arriva Espagne !
Vous savez, moi, je ne suis pas un philosophe et je vois beaucoup les choses en images. Vous savez, il y a eu ce Sacré-Cœur attaché au burnous de la garde-mort de Franco. Et alors là, j'ai réagi violemment. Je me trouvais exactement sur le terrain où il n'y avait pas pour moi à hésiter, vous comprenez ? Et à prendre conscience du péril que représentait pour l'Église le fait de son inféodation à la puissance du mal, car on peut appeler ainsi vraiment le nazisme.
Alors ça, c'est extraordinaire. Voilà ce catholique plutôt conservateur dans sa jeunesse qu'on retrouve dans le camp des « rouges » entre guillemets pendant la guerre d'Espagne, Jean-Luc Barré, évidemment.
Non, ce n'est pas le camp des rouges, c'est le camp d'une certaine justice, c'est le camp aussi de ceux qui sont opprimés à ce moment-là par les nazis et par les fascistes. Il a accueilli l'arrivée de Franco sans antipathie, il a même été de ceux qui ont demandé à Léon Blum de ne pas intervenir en Espagne, ce qu'il se reprochera toujours. Mais c'est pour ça que j'ai insisté au point de départ sur l'importance de l'affaire Dreyfus. Cette sensibilité-là s'éveille instantanément chez lui, dès l'instant qu'on confond, encore une fois, ce qu'est l'Église avec, encore plus avec, évidemment, des courants politiques de cette tendance-là et de cette porteur de cette haine-là et de ces massacres de Badajoz ou de Guernica. Là-dessus, il ne se trompe pas.
Massacres, d'ailleurs, qui se font des deux côtés, il le dit lui-même.
Enfin, bien sûr, non, mais Maritain aussi a été hésitant.
Bernanos.
Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui ont choisi un camp contre un autre, ce sont des gens qui ont protesté contre le fait que l'Église pouvait se confondre, se commettre avec les nazis ou les fascistes.
Et on le retrouve du côté des opprimés, on le retrouve au même moment, d'ailleurs, contre la guerre d'Éthiopie, c'est-à-dire contre l'invasion de l'Éthiopie par les Italiens. Et là, il défend le Négus. Ça, c'est par antiracisme aussi. Hein. C'est parce qu'il avait été choqué par une caricature de Sénèpe du Négus à Haïlé Sélassié.
Mais il comprend plutôt les raisons de l'intervention de Mussolini. Donc politiquement, il n'est pas hostile à l'intervention. Par contre, il est révulsé par le racisme, en effet, que dégage un dessin de Sénèpe qui montre avec beaucoup de mépris un noir éthiopien sous un cocotier. Pour lui, c'est profondément la sensibilité de Mauriac est antiraciste. Enfin, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus.
Et déjà se profile l'anticolonialisme. Entre-temps, se produit l'occupation. Là encore, il ne voit pas au tout début d'un très mauvais œil l'arrivée de Pétain au pouvoir. Puis très vite, il s'en détache. Pendant l'occupation, on va le voir écrire des textes clandestins, les cahiers noirs, hein, publiés clandestinement par les éditions de Minuit, participer au Comité national des écrivains. Il était résolument hostile au régime de Vichy, surtout à la collaboration, Jean-Luc Barré.
Mais il n'y avait rien de commun entre Vichy et Mauriac. Donc, je veux dire, l'admiration très brève, vous savez, il y a des intellectuels qui ont été plus tardifs.
L'espoir, disons, entre guillemets,
voilà.
Très bref.
Oui, il y a un espoir. Bon, il se trouve que dans ce chaos, Pétain, voilà. Mais il n'empêche que les valeurs de Vichy n'ont rien à voir avec celles de Mauriac. Et surtout, plus important encore, très tôt, Vichy va faire la liste de ce qu'ils appelleront, de ce que les dirigeants de Vichy appelleront les corrupteurs de la jeunesse. Il y a Gide, il y a Cocteau et il y a Mauriac. Et Mauriac, d'emblée, est un personnage suspect aux yeux de Vichy. Et là-dessus, je dirais que Mauriac, lui, ne s'est pas trompé sur ce qu'était Vichy. Vichy non plus, d'une certaine manière, ne s'est pas trompé sur ce qui le séparait de François Mauriac.
Et pourtant, arrive la libération, commence l'épuration, et on va voir Mauriac défendre les écrivains les plus compromis pendant la guerre, Henri Béraud, ou Robert Brasillach encore, qu'il défend et auquel il demande la grâce au général de Gaulle.
Non, c'est pas qu'il les défend, il ne défend pas.
Il ne défend pas ce qu'ils ont fait, il demande leur grâce. Il demande à ce qu'ils ne soient pas tués.
Oui, d'abord,
il
s'insurge contre la parodie de procès auquel on assiste à la libération, ces procès hâtifs, bâclés, cette soif de vengeance, d'épuration qui anime entre autres le Parti communiste et à laquelle le général de Gaulle est bien obligé de céder un tout petit peu. Et il s'insurge, lui, écrivain catholique, contre l'injustice de ces procès, qui plus est assassiner, enfin en tout cas fusiller de jeunes écrivains comme Brasillach, pour lui, le remplit d'horreur, à l'évidence.
D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il sera en colère, disons, contre le général de Gaulle, parce que de Gaulle ne va pas gracier Brasillach. Le canard enchaîné, d'ailleurs, appelé Mauriac Saint-François des Assises.
Oui, absolument. Ouais.
Alors, prix Nobel en 1953, on va retrouver également Mauriac condamné le colonialisme, la guerre d'Algérie et la torture dans ses fameux bloc-notes publiés dans les colonnes d'un nouveau journal, L'Express.
Moscou Paris a découvert la musique des rotatives et le parfum de l'encre d'imprimerie en assistant au premier tirage de l'Express quotidien. Sur le berceau du nouveau-né, on a vu se pencher toutes les bonnes fées de la presse, de la politique et de l'art. Une feuille qui pousse en automne, c'est en effet un événement.
N'oubliez pas que nous ne sommes pas à l'époque télévision.
Robert Badinter.
Nous sommes à une époque où la presse écrite a une importance considérable. Les éditoriaux, le bloc-notes de François Mauriac ont joué un rôle très, très, très important.
Avec ce bloc-notes, il a eu une influence énorme sur le monde politique.
Considérable.
François Giroux.
Puis la façon dont il l'a manié. Je dirais que ce n'était pas vraiment un journaliste, Mauriac. C'est un écrivain qui écrivait dans un journal. Mauriac a eu de l'influence en ce qui concerne la décolonisation, incontestablement.
Oui. Il est certain que, avec le bloc-notes, j'ai mis au point une forme de journalisme adaptée à mes moyens. Voyez-vous, c'est toujours l'écrivain chez moi qui a rédigé sa page de journal. Je veux dire que j'ai donné autant de soin à mon bloc-notes qu'un roman, n'est-ce pas ? C'est là que j'ai reçu ma récompense. Je crois qu'un écrivain doit être partout. Et toujours un écrivain, comme un grand peintre, et toujours et partout un grand peintre dans la moindre esquisse.
François Mauriac, écrivain engagé, mais d'abord et toujours écrivain, Jean-Luc Barré. Le bloc-notes, c'est vrai que ça se lit comme un roman.
Oui, mais je m'insurge toujours contre l'idée de Mauriac journaliste, parce qu'on l'enferme un peu trop pour moi dans cette notion-là, et il rappelle très justement qu'il est d'abord un écrivain. Je dirais qu'il a inventé une forme de journalisme qui tient largement de l'intimité. C'est presque un journalisme intime. Quand on lit le bloc-notes, Il n'est pas seulement question de l'actualité politique ou des admirations littéraires. Il peut être aussi question de la nature, aussi question de, d'un dimanche à Malaga au retour de la messe. Et il peut être
Malaga,
question
de sa maison près
de Bordeaux. Il peut être question subitement de souvenirs d'enfance. Chaque page est une page profondément littéraire et issue de son œuvre. Et ça n'est pas seulement une page de journaliste. Alors, ceci étant, aucun journaliste depuis lors, et même de son temps, peut-être Camus, n'a eu autant d'influence effectivement sur l'opinion. Ce n'était pas seulement sur une élite, c'était sur l'opinion publique.
Et avec du courage, parce qu'il se fâche avec tout le monde. Voilà un homme qui écrivait au Figaro, qui le quitte pour aller à l'Express, parce que tout simplement, le voilà qui condamne le colonialisme, la guerre d'Algérie, la torture. Il est un des tout premiers à dénoncer la torture en Algérie avant même l'affaire Audin. Donc, il est conspué par l'extrême droite, conspué aussi par la gauche à cause de son gaullisme à partir de 1958. Il va d'ailleurs le rester jusqu'à sa mort, Jean-Luc Barré.
C'est-à-dire, le Mauriac, dont je parlerai dans le deuxième volume de ma biographie, est un homme qui est devenu, au fond, profondément libre et libéré, peut-être pas libéré de tout, mais en tout cas libéré, sa parole est libérée. Il a acquis cette autorité. Et aussi, je dirais qu'il y voit clair d'une certaine manière, lui qui a été un peu ballotté entre des tendances diverses sur le plan politique avant-guerre, il voit clair dans ce qui est son vrai combat, dans ce qui est juste. Et en tout cas, parmi les refus profonds qu'il y a chez lui, il y a celui du colonialisme, incontestablement. Le refus aussi d'une certaine droite, et je dirais presque aussi d'une certaine gauche. Il est profondément anticommuniste. Et au fond, il est totalement libre, avec une liberté souveraine qui ne va pas d'ailleurs chez lui sans être souvent marqué par des haines profondes de la part de ses adversaires. Il disait « Je suis l'écrivain le plus insulté de France ».
Oui.
Et il a été très profondément attaqué jusqu'à la fin.
Oui, jusqu'à la fin. Et même après, enfin pas après, mais c'était étonnant. Il meurt en 1970 et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à vos entretiens avec son fils Jean Mauriac, jusqu'à ce livre qui vient d'être publié, Jean-Luc Barré, on ignore au fond la vie privée. Il a fallu que vous rencontriez son fils pour un livre d'entretien qui a été publié il y a quelques mois, et Jean Mauriac, auquel vous avez demandé si son père était homosexuel. Homosexuel, mon père, dit Jean Mauriac, non, mais de tendance homosexuelle. Oui, bien sûr, cet amour est-il allé chez lui jusqu'à la sexualité? Pourquoi pas? Voilà qu'il ne me gênerait en aucune manière.
Oui, je trouve que c'est magnifique de la part de Jean Mauriac d'avoir accepté, je dois dire très spontanément, je me demande même si je lui ai posé la question, je pense qu'il a répondu avant que je lui pose la question, accepté de lever le voile sur ce qui était un tabou, encore une fois, un peu dépassé, et il l'a fait par exigence de vérité, et je crois sans le désir, évidemment, ni de près ni de loin, de nuire à la mémoire de son père, considérant que son père avait beaucoup souffert de cela, et qu'il était temps, d'une certaine manière, de lui rendre justice de ce point de vue-là, et de montrer l'homme tel qu'il était. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que c'est Jean Mauriac qui a ouvert la voie.
Est-ce que ça a tant compté que ça, justement, cette homosexualité? Je reviens à ma question du début, parce qu'on vous a reproché, justement, d'y attacher trop d'importance, Jean-Luc Barré.
Non, mais c'est pas que j'y attache trop d'importance. Je trouve que les autres n'y ont attaché aucune importance. La différence, elle est là, au point même pour certains biographes de maquiller délibérément la vérité.
Donc, vous pensez à Jean Lacouture.
Oui, je pense un peu à Jean Lacouture. Donc, à partir de ce moment-là, il était nécessaire que cette vérité soit dite, parce que cette vérité, je reviens sur ce que je disais au début de cet entretien, d'une certaine manière, aujourd'hui, pèse comme un carcan sur la mémoire de cet écrivain. Moi, j'avais envie de lui rendre justice, de montrer l'homme tel qu'il était et l'écrivain tel qu'il est.
Et bien
dans sa modernité, parce que c'est ça qui est important. C'est un écrivain qu'on peut lire aujourd'hui.
Merci Jean-Luc Barré pour en savoir plus. Donc, je recommande chaleureusement la lecture du premier volume de votre biographie, François Mauriac, biographie intime, un livre qui s'arrête en 1940, mais dont la suite sera bientôt publiée, donc toujours chez Fayard. À lire aussi de Jean Mauriac, le général et le journaliste, ses conversations justement avec vous, et qui a été publié chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire « L'Express à 50 ans » de Michel Royer et Alain Danvers, diffusé il y a quelques années sur France 5, ainsi qu'une archive pâtée de 1936, extraite du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Dallaglio et Florent Layani. Documentation, Emmanuel Fournier, Ilinka Negulesco, Hervé Evano et Franck Olivard. Une réalisation de Bertrand Chaumeton. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'histoire d'un mythe, James Bond.